Chapitre 12. Vol. Rein n'aurait pas cru possible de s'endormir dans les serres du dragon, mais il s'était bel et bien endormi. Il se réveilla en sursaut et poussa un petit cri en voyant ses pieds pendiller dans le vide. Il sentit Tintaglia glousser, mais elle ne dit rien. Il commençait à bien se connaître. Il devinait sa lassitude au rythme des battements de ses ailes. Il fallait qu'elle se repose bientôt. S'il n'avait pas été là, lui avait-elle dit, elle aurait plongé dans les bas-fonds près du Nil, l'eau aurait amorti son atterrissage. Parce qu'elle le tenait dans ses pattes antérieures, elle cherchait une plage assez vaste qui lui permettrait de se poser lourdement. Dans les îles des pirates, ce n'était pas facile à trouver. Les îlots, très accores, pointaient sous eux, comme des sommets de montagne. Quelques-uns offraient des plages de sable fin. À chaque période de repos, elle choisissait un endroit et descendait en cercle vertigineux, puis, à l'approche du sol, elle battait si violemment de ses grandes ailes parcheminées que leur mouvement coupait le souffle de Rein et soulevait des nuages de poussière et de sable. Une fois en bas, elle le lâchait négligemment et lui ordonnait de s'écarter. Qu'il obéisse ou non, elle reprenait son essor. Les turbulences provoquées par son passage suffisaient à le plaquer au sol. Elle restait absente quelques heures ou une demi-journée pour chasser, se nourrir, dormir et parfois se nourrir une deuxième fois. Rein profitait de ses heures de solitude pour allumer un feu, manger ses provisions qui diminuaient, puis il se roulait dans sa cape pour dormir. S'il n'arrivait pas à trouver le sommeil, il était tourmenté par la pensée de Malta, où il se demandait ce qu'il adviendrait de lui si le dragon ne revenait pas. Dans la lumière déclinante de l'après-midi d'hiver, Rein aperçut une plage de sable noir hérissée d'amas de rochers noirs. Tintaglia vira sur l'aile et se dirigea vers l'endroit en se balançant. Alors qu'elle décrivait des cercles au-dessus d'eux, quelques-uns des rochers noirs qui jonchaient la plage se mirent à bouger. Des mammifères marins qui faisaient la sieste relevèrent la tête. La vue du dragon les fit galoper lourdement dans les vagues. Tintaglia jura
« Si tu n'étais pas là, j'aurais un splendide repas bien gras dans mes serres à l'heure qu'il est. C'est rare de trouver des bœufs de mer si loin au nord à cette époque de l'année. Je n'aurais plus d'occasion comme celle-là. »
La couche de sable noir sur le tuf se révéla moins profonde qu'il n'y paraissait. Tintaglia atterrit sans dignité, ses immenses serres raclèrent la plage comme les griffes d'un chien sur un sol dallé. En cinglant violemment de la queue pour garder son équilibre, elle faillit tomber sur lui avant de réussir à s'arrêter. Quand elle l'eut lâché sur la plage, il détala pour s'écarter, mais elle ne repartit pas immédiatement. Elle marmottait toujours, se désolait à propos de ses beaux et gras bœufs marins.
« Une viande maigre, bien rouge, des couches de graisse et, oh, un foie riche, incomparable, doux et chaud dans la bouche !»
se lamentait-elle. Il se retourna vers l'île couverte d'une épaisse forêt.
« Je ne doute pas que tu puisses trouver du gibier ici, » assura-t-il.
Mais elle ne se laissa pas consoler.
« Ah, certainement. Des lapins étiques à la pelle ou une biche décharnée. Ce n'est pas ce dont j'ai envie, Rein. Cette viande-là me sustentera, mais mon corps exige de grandir. » Si j'avais éclos au printemps comme j'aurais dû, j'aurais eu tout l'été pour chasser. Je serais devenue forte, puis grasse, puis de nouveau forte, et encore plus grasse, jusqu'à ce que l'hiver s'annonce. J'aurais eu des réserves pour subsister facilement sur des animaux maigres. Mais ce n'est pas le cas.
Elle secoua les ailes et s'examina d'un air affligé.
J'ai tout le temps faim, Rein. Et quand je suis provisoirement rassasié, mon corps réclame du sommeil pour pouvoir se refaire. Mais je sais que je ne peux pas dormir tout mon sou, ni chasser ni manger à ma faim, parce que je dois tenir ma promesse si je veux sauver les derniers survivants de ma race. »
Il resta sans voix, en la voyant subitement sous un jour entièrement nouveau. Elle était jeune, elle était en pleine croissance, bien qu'ayant déjà vécu une centaine de vies. Quel effet cela faisait de revenir à la vie après une attente interminable pour être happé par l'impérieux devoir d'altruisme? Il eut soudain pitié d'elle. Elle avait dû sentir son émotion, mais ses yeux chavirèrent froidement. Elle replia les ailes sous son corps.
« Écarte-toi »
avertit-elle. Mais elle ne lui laissa pas suffisamment de temps pour bouger. Le vent de ses ailes souleva un nuage de sable irritant qui mit sa peau à rude épreuve. Quand il se risqua à ouvrir les yeux, elle était déjà un éclair de bleu, iridescent comme un colibri qui s'élevait dans le ciel. Son cœur célébra la pure beauté de cette créature. Quel droit avait-il de la retarder dans sa mission de sauvetage? Alors il pensa à Malta et sa résolution s'affermit. Une fois qu'elle serait en sécurité, il serait prêt à consacrer tous ses efforts à aider Tintaglia. Il choisit un endroit abrité sous des rochers. Le jour d'hiver était clair et le soleil pâle presque tiède. Il mangea frugalement sa nourriture séchée et but de l'eau à son outre. Il essaya de dormir, mais les meurtrissures provoquées par les griffes le faisaient souffrir, et le soleil frappait trop directement ses paupières. Il guettait son retour, les yeux au ciel, mais il n'aperçut que des mouettes qui tournoyaient. Résigné à une longue attente, il s'aventura dans la forêt en quête d'eau douce. Il éprouvait une impression bizarre à marcher sous les arbres, sur la terre ferme. La végétation luxuriante du désert des pluies qui dominait les marais était la seule forêt qu'il connaissait. Ici, les blanches ployaient bas et les taillis étaient plus touffus. Le tapis de feuilles mortes était épais sous ses pieds. Il entendait des oiseaux, mais il releva peu de traces de petits gibiers et aucune de daim ou de sanglier. Peut-être cette île n'abritait-elle aucun gros animal? Et en ce cas, il se pouvait que Tintaglia revienne le ventre vide. Le terrain devint plus escarpé et il douta tout à coup d'y dénicher un ruisseau. Il revint à contre-cœur vers la plage. Alors qu'il s'approchait d'un endroit où la forêt obscure était trouée de la lumière venant de la plage, il entendit un bruit singulier. Profond et résonnant, il lui rappela le son produit par un objet mou sur un tambour de peau. Il ralentit le pas et hasarda un œil à travers un buisson avant de s'aventurer à découvert. Les bœufs marins étaient revenus. 5 ou 6 se prélassaient sur le sable. L'un leva son mufle. Son poitrail épais se dépliait et se repliait comme un soufflet pour produire ce son. Reine écarquilla les yeux, fascinés. Il n'avait jamais vu d'aussi près des bêtes de cette taille. L'animal baissait sa tête massive et flairait bruyamment le sable, visiblement intrigué par l'odeur inconnue du dragon. Avec un air de dégoût, il découvrit des défenses jaunes, secoua la tête puis s'affala de nouveau sur le sable. Les autres qui somnolaient ne lui prêtaient aucune attention. Un bœuf se retourna sur le dos et s'éventa mollement avec ses nageoires. Il tourna la tête vers Reine et dilata les naseaux. Le jeune homme crut qu'il allait se remettre sur pattes et patauger jusqu'à la mer, mais l'animal ferma les yeux et se rendormit. Une idée prit naissance dans l'esprit de Reine. Il se retira sans bruit. Parmi les bâtons qui foisonnaient sous les arbres, il en choisit un bien droit, long et robuste, puis l'épointa avec son couteau. Il n'avait jamais chassé ni tué de proie, mais cela ne le découragea pas. Serait-ce très difficile de ramper jusqu'à l'une de ces grasses bêtes pacifiques et de la tuer? Une lance enfoncée dans le cou leur procurerait de la viande à tous les deux? Quand il fut satisfait de son arme de fortune, il épointa un deuxième bateau en réserve, puis parcourut la forêt jusqu'à l'autre extrémité de la plage. En sortant de sous les arbres, il se baissa et fonça pour se placer entre les animaux et la mer et leur barrer ainsi la retraite. Il s'était attendu qu'il soit inquiet en le voyant. Un ou deux tournèrent la tête pour le regarder, mais le plus gros du troupeau continua à somnoler et à se prélasser au soleil. Même celui qui avait beuglé en flairant l'odeur du dragon l'ignora. Enhardi, il choisit sa cible à la frange du groupe dispersé. Un beau bien gras, marqué de cicatrices par une longue vie. Si la viande n'était pas tendre, du moins serait-elle abondante. Et il supposa que la quantité serait le principal pour Tintaglia. Il perdit stupidement du temps à s'accroupir. Le veau n'ouvrit même pas un œil jusqu'à ce que Reine soit à un jet de lance de distance. Presque honteux de tuer une proie aussi apathique, Reine tira le bras en arrière. Le cuir ridé de l'animal paraissait épais. Il voulait lui donner une mort rapide. Il respira à fond et mit toute sa force dans son élan, puis il frappa. Une seconde avant que la pointe ne touche la chair, le bœuf marin se remit debout en mugissant. Rain sut qu'il avait mésestimé le caractère de l'animal. La lance avec laquelle il visait le cou se planta profondément dans l'épaule. Le sang jaillit des naseaux de la bête. Rain lui avait transpercé le poumon. Il se cramponna fermement à son arme et essaya de l'enfoncer plus avant alors que le troupeau commençait à s'agiter. Avec un rugissement, l'animal fit volte-face. Accroché à sa lance, Rain fut entraîné et tiré sur le sable. Il avait grand-peine à ne pas lâcher prise. Son bâton pointu paraissait maintenant aussi efficace qu'une poignée de marguerite, mais c'était la seule arme dont il disposait. Il parvint à ramasser ses pieds sous lui et d'une brusque détente, il plongea la lance plus profondément. L'animal beugla, le sang coulait à présent de sa gueule et giclait de ses naseaux. Rain allait gagner. Il sentait à travers son bâton les forces de l'animal décliner. Alors, un autre veau marin le happa par sa cape et le fit tomber. Il lâcha son bâton et l'animal blessé se retourna contre lui. Ses grandes défenses semblèrent tout à coup bien aiguës et puissantes, tandis qu'il chargeait Rain, la gueule béante. Celui-ci roula sur le côté mais s'empêtra dans sa cape. Il dégagea son second bâton pointu du tissu qui l'entravait, puis retira d'une secousse son pied devant les mâchoires claquantes. Il voulut se relever, mais l'autre le harponnait toujours par un coin de son vêtement. Il agitait la tête dans tous les sens et fit tomber Rain à genoux. Les autres se rapprochaient rapidement. Il essaya de tirer sur sa cape pour la déchirer, se libérer et fuir, mais les nœuds tenaient bon. Dans le feu de l'action, il avait dû perdre son bâton pointu. Un veau le heurta et le projeta contre celui qui s'accrochait à sa cape. Il entrevit brièvement sa proie qui s'effondrait morte sur le sable, mais il était bien avancé à présent. Le qui aigu de Tintaglia déchira le ciel d'hiver. Sans lâcher l'étoffe, le veau tourna la tête pour regarder vers le ciel. Puis, le troupeau tout entier se mit à galoper vers l'eau à la débandade. Rain fut entraîné par sa cape restée accrochée aux défenses du bœuf marin. Quand le dragon frappa l'animal, Rain crut que sa nuque allait se rompre. Ils glissèrent ensemble sur le sable, la bête piaillant avec des cris étonnamment perçants alors que les mâchoires de Tintaglia se refermaient sur son cou. D'un seul coup de dent, elle sépara presque la tête du tronc épais. Le corps se tordit sous les pattes postérieures du dragon, la tête toute flasque retomba sur le côté. Étourdi, Rain rampa jusqu'à lui et dégagea sa cape des défenses.
« C'est à moi !»
rugit Tintaglia en dardant vers lui une figure menaçante.
« Ma proie, ma nourriture, écarte-toi !»
Alors qu'il reculait précipitamment en chancelant, elle baissa la gueule sur le ventre de la bête. Un coup de dent, et elle étira le cou pour happer et gober les entrailles pendantes. Une puanteur de boyau flotta jusqu'à Rain. Elle avala.
« Ma viande !»
répéta-t-elle, et elle baissa la tête pour reprendre une nouvelle bouchée.
« Il y en a un autre là-bas. Tu peux le manger aussi !»
dit Rain. Il agita la main vers le veau transpercé de la lance. Il s'effondra sur le sable et réussit enfin à délacer les cordons de sa cape. Il l'ôta d'un geste brusque et la rejeta d'un air dégoûté. Qu'est-ce qui avait pu lui faire croire qu'il était capable de chasser? Il était un terrassier, un penseur, un explorateur, pas un chasseur. Tintaglia s'était figé. Une bouchée dégoûtante d'entrailles pendillait de ses mâchoires. Elle le fixa de ses yeux d'argent étincelant. Puis, elle rejeta la tête en arrière, avala sa bouchée et demanda
« Je peux manger ta proie? C'est ce que tu as dit ?»«
Je l'ai tué pour toi. »
« Tu ne penses tout de même pas que je pourrais engloutir une bête de cette taille ?»
Elle tourna la tête comme si elle ne l'avait jamais vue.
« Franchement, je suis étonné que tu aies pu en tuer un. J'ai cru que c'était parce que tu avais très faim. »«
Non, c'est pour toi. Tu as dit que tu étais affamé.
Il n'empêche, j'en emporterai bien un peu pour demain. »
Peut-être que d'ici là, le spectacle du dragon se repaissant et l'odeur du sang lui paraîtrait moins écœurant. Elle pencha la tête et cisailla la nuque bossue du bœuf marin.
Elle mâcha deux fois et avala.
« C'était vraiment pour moi, quand tu l'as tué ?»«
Oui. »
« Et que veux-tu de moi en retour ?»
demanda-t-elle sur ses gardes.
« Rien de plus que ce que nous avons déjà convenu. Aide-moi à retrouver Malta. J'ai vu que tu ne dénicherais pas beaucoup de gibier ici.
On voyagera mieux si tu t'es rassasié.
Je n'ai pensé qu'à ça. »«
Vraiment ?»
Il ne put interpréter l'inflexion bizarre de sa voix. Il s'approcha en boitant de l'animal qu'il avait tué et réussit à la troisième tentative à arracher sa lance. Il reprit son couteau, le nettoya et le remit dans son étui. Tintaglia dévora sa proie jusqu'à ne laisser qu'un amas d'os avant de s'attaquer à l'autre. Rain l'observait, saisi d'une sorte de crainte respectueuse. Il n'aurait jamais cru que l'estomac du dragon ait une capacité aussi vaste. À la moitié de son repas, elle avait quelque peu calmé sa voracité. Des mâchoires et des griffes, elle prit la dépouille du veau et la tira hors de portée de la marée montante, près du feu qu'avait allumé Rain. Sans un mot, elle se coucha en rond autour de la carcasse et sombra dans un profond sommeil. Rain se réveilla en tremblant dans l'obscurité complète. Le froid et l'humidité de la nuit avaient pénétré sa cape déchirée et le feu était réduit à des braises. Il ajouta du bois et découvrit soudain qu'il avait faim. Il passa sur la pointe des pieds devant la queue enroulée du dragon et se pencha sur la carcasse dans le noir. Pendant qu'il tâchait de trouver des parties intactes que les dents et la salive de Tintaglia n'avaient pas gâtées, elle ouvrit un œil énorme. Elle le considéra sans surprise.
« Je t'ai laissé les deux mâchoires de devant, » dit-elle,
puis elle referma les paupières. Il se douta qu'elle lui avait laissé les morceaux les moins appétissants. Il trancha les nageoires. De la taille d'un plat, grasses, rosâtres, pelées avec leurs griffes noires émoussées, elles n'étaient guère pour le tenter, mais il en enfila une sur un bâton qu'il plaça au-dessus du feu. Peu après, l'odeur alléchante de la viande grillée remplit la nuit. Son estomac gargouillait. Il n'avait jamais rien mangé d'aussi savoureux que ce gras croustillant et dégoulinant. Et la chair des doigts qui avait réduit à la cuisson... Il mit l'autre nageoire à griller avant d'avoir achevé la première. Tintaglia se réveilla, les naseaux frémissants, au moment où il tirait du feu la seconde brochette. « Tu en veux ? » demanda-t-il à contre-cœur.
« Sûrement pas !»
répondit-elle avec une pointe d'humour. Tandis qu'il s'attaquait à la deuxième nageoire, elle dévora le reste de l'animal. Elle mangeait plus lentement à présent, avec un plaisir évident. Rain rongea les derniers os et les jeta dans les braises. Il alla laver ses mains graisseuses dans les vagues glacées et clapotantes. Il revint près du feu, rajouta du bois pour chasser le froid plus vif de la nuit. Tintaglia soupira de contentement et s'étira, le ventre tourné vers les flammes. Assis entre le dragon et le feu, Rain se trouva blotti dans une tiède hébétude. Il s'allongea sur sa cape et ferma les yeux.
« Tu es différent de ce que je croyais, » fit remarquer Tintaglia.
« Tu ne ressembles pas non plus à l'idée que je me faisais d'un dragon, »
répondit-il en laissant échapper un soupir de satisfaction.
« On s'envole au lever du jour ?»«
Bien sûr. Pourtant... » Si cela ne tenait qu'à moi, je serais bien resté ici pour ramasser encore quelques veaux marins.
C'est impossible que tu aies encore faim.
Pas maintenant, mais on devrait toujours se soucier du lendemain.
Durant un moment, le silence resta suspendu entre eux. Puis Rain finit par demander
« Vas-tu grandir encore ?»«
Bien sûr. Pourquoi ne grandirais-je pas ?»
« Je pensais... Eh bien, tu me parais déjà très grande. Ils ont quelle taille, les dragons ?»«
Nous continuons à grandir notre vie durant. Alors ça dépend si nous vivons longtemps. »«
Tu crois que tu vas vivre longtemps ?»
Elle eut un reniflement amusé.
« Aussi longtemps que possible. Et toi, tu crois que tu vas vivre combien de temps ?»«
Eh bien... » 80 ans, ce serait une longue vie. Mais rares sont les habitants du désert des pluies qui atteignent cet âge.
Il s'appliqua à calculer.
Mon père est mort à l'âge de 45 ans. Si j'ai de la chance, j'espère vivre encore 20 ans. Assez pour avoir des enfants et les voir sortir de l'enfance.
Aussi bref qu'un éternuement.
Tintaglia s'étira avec nonchalance.
Je crois que ta vie va beaucoup se prolonger maintenant que tu as voyagé avec un dragon.
Tu veux dire que ça semblera plus long ?
Demanda Ren qui cherchait à adopter un ton léger en réaction à ces paroles troublantes.
Non, pas du tout. Tu ne sais donc rien. Crois-tu que quelques écailles ou des yeux de bronze sont tout ce qu'un dragon peut partager avec son compagnon ? Plus tu acquiers de mes attributs, plus ta vie s'allonge. Je ne serais pas surprise que tu passes le siècle en conservant l'usage de tes membres. Du moins, c'était ainsi avec les anciens. Certains vivaient jusqu'à 3 ou 4 siècles. Mais bien sûr, cela avait derrière eux des générations de contact avec les dragons. Il se peut que toi, tu ne vives pas aussi longtemps, mais ce sera probablement le cas pour tes enfants.
Rain s'assit, soudain parfaitement réveillé.
« Tu plaisantes ?»«
Mais non. Pourquoi plaisanterais-je ?»«
Pour rien. Je... C'est seulement que je ne suis pas sûr d'avoir envie de vivre aussi longtemps. »
Il garda un moment le silence. Il s'imaginait voir mourir sa mère et son frère aîné. C'était tolérable. On s'attend à voir mourir ses parents. Mais s'il fallait voir Malta vieillir et mourir, et s'ils avaient des enfants, et qu'ils devaient être témoins de leur affaiblissement et de leur disparition alors que lui resterait lucide et alerte, une vie prolongée lui paraissait une récompense équivoque pour l'honneur équivoque d'être le compagnon d'un dragon. Il dit tout haut, « Je donnerais toute mon espérance de vie pour une seule année avec Malta. »
Prononcer son nom. Ce fut comme s'il prononçait une invocation magique. Il la vit en pensée, le lustre de ses cheveux noirs et ses yeux qui brillaient en le regardant. Sa mémoire perfide l'entraîna au bal d'été. Il la tenait dans ses bras tandis qu'il tournait sur la piste de danse. C'était son bal de présentation, et il ne lui avait accordé qu'une seule danse avant de se précipiter pour sauver le monde. Au lieu de quoi il avait tout perdu, y compris Malta. Sa main se souvenait de la petitesse de ses doigts. Elle lui arrivait au menton. Il refusa farouchement l'image de Malta à bord d'une galère chalcédienne. La façon dont se conduisaient les chalcédiens avec les femmes sans protection était bien connue. Une peur affreuse et une colère bouillonnante fusèrent en lui. Dans leur sillage, il se sentit faible, insignifiant. C'était sa faute à lui si elle était exposée à de tels périls. Elle ne pourrait pas lui pardonner. Il n'oserait même pas solliciter son pardon. Même s'il la sauvait, qu'il la ramenait saine et sauve chez elle, il doutait qu'elle tolère jamais sa présence. Le désespoir troubla son âme.
« Quelle tempête d'émotions ! Comme vous, les humains, vous pouvez en soulever rien qu'en imagination !»
fit remarquer le dragon sur un ton condescendant. D'une voix plus réfléchie, il demanda «
Est-ce parce que vos vies sont si brèves ? Vous vous racontez de folles histoires sur ce qui pourrait arriver demain et vous éprouvez toutes les émotions en songeant à des événements qui n'arriveront jamais. Peut-être est-ce pour suppléer au passé dont vous ne pouvez vous souvenir que vous inventez un avenir qui n'existera pas ?
Peut-être, convint Rain malgré lui.
L'amusement de Tintaglia le piquait.
Je suppose que les dragons n'ont pas besoin d'imaginer l'avenir puisqu'ils ont de si riches souvenirs.
Tintaglia émit un bruit de gorge bizarre. Était-elle amusée ou agacée par son coup de pointe ?
Je n'ai pas besoin d'imaginer l'avenir. Je le connais. Les dragons vont reprendre leur véritable place comme seigneurs des trois règnes. « Nous régnerons à nouveau sur le ciel, la mer et la terre. »
Elle ferma les yeux. Rain réfléchit à ce qu'elle venait de dire.
« Et où se trouve cette terre des dragons ? En amont de Trois-Nousses, au-delà du désert des pluies ?
elle entr'ouvrit un œil. Cette fois-ci, il fut certain de lire de l'amusement dans les reflets d'argent.
« La terre des dragons ! Comme s'il n'y en avait qu'une, un espace délimité par des frontières. C'est bien un avenir que seul un humain peut imaginer. Nous régnons sur le ciel et sur la terre, toute la terre, partout. »
Elle referma son œil. « Mais et nous ? Et nos villes, nos fermes, nos champs et nos vignes ?» L'œil se rouvrit.
« Et quoi ? Les hommes continueront à se quereller entre eux pour savoir qui doit récolter et où, quelle vache appartient à qui. Ainsi va le monde des hommes. Les dragons sont plus sages. Ce qui est sur la terre appartient au premier qui le mange. Ma proie, c'est ma nourriture. Ta proie, c'est ta nourriture. Tout ça est très simple. »
Tout à l'heure, dans la journée, il avait éprouvé pour elle presque de l'amour. Il s'était émerveillé devant son étincelle bleue alors qu'elle miroitait dans le ciel. Elle était venue à son secours quand les bœufs marins auraient pu le tuer et la délivrer ainsi de sa promesse. À présent, il se reposait, protégé par le feu et le rempart qu'elle lui avait fait de son corps. Mais toutes les fois qu'il frôlait la vraie camaraderie, elle faisait des remarques arrogantes, étranges, qui réveillaient en lui la méfiance. Il ferma les yeux mais ne put s'endormir. Il songeait à la créature qu'il avait lâchée dans le monde. Si elle tenait sa promesse et sauvait Malta, alors il serait obligé de tenir la sienne. Il imagina les serpents qui se métamorphosaient en dragons, d'autres dragons émergeant de la cité ensevelie. Était-il en train de vendre l'humanité, de la livrer à l'esclavage pour l'amour d'une femme? Malgré qu'il en ait, il n'arrivait pas à estimer le prix trop élevé. Malta frappa à la porte, puis se hâta d'entrer sans attendre la réponse. Elle poussa une exclamation d'agacement, irritée par l'obscurité qui régnait dans la pièce. En deux enjambées, elle traversa la chambre. Elle écarta le rideau devant la fenêtre. « Vous ne devriez pas rester allongé dans le noir et vous apitoyer sur vous-même, » dit-elle sévèrement à Kosgo. Depuis sa couche, il l'observa, les yeux plissés, à peine entr'ouverts.
« Je me meurs, »
gémit-il d'une voix rauque.
« Et personne ne s'en soucie. C'est exprès qu'il fait tanguer le navire, je le sais. Comme ça, il peut se moquer de moi devant l'équipage. »
Mais non, c'est le mouvement habituel du bouffon. Il m'a montré hier soir au dîner. C'est dû à la forme de sa coque. Si vous montiez sur le pont pour respirer un peu d'air frais et regarder la mer, le tangage ne vous troublerait pas autant.
C'est vous qui le dites. Moi, je sais ce qui me ferait du bien.
Fumer.
C'est un remède souverain contre le mal de mer.
C'est vrai. J'ai été malade les deux premiers jours. Le capitaine Rouge m'a conseillé d'essayer et j'ai été si mal en point que je l'ai fait. Ça marche. Il a expliqué quelque chose à propos du mouvement du bateau par rapport à la mer. Quand vous restez là à fixer les cloisons ou que vous vous recroquevillez dans le noir, votre ventre ne comprend pas ce que vous dit votre tête.
Il se peut que mon estomac ne comprenne pas ce que me dit ma tête,
rétorqua Kosgo.
Je suis le gouverneur Magnadon de Jamelia. Pourtant, une bande de canailles me retient prisonnier dans des conditions intolérables. J'occupe le trône de Perle. Je suis le bien-aimé de ça. Je descends d'une lignée de sages souverains qui remontent aux origines du monde. Pourtant, vous me parlez comme si j'étais un enfant, et vous n'avez même pas l'élémentaire courtoisie de vous adresser à moi dans les formes.
Il se tourna vers la cloison.
La mort est préférable. Laissez-moi mourir, et le monde se soulèvera, animé d'un juste courroux, et vous châtiera tous pour ce que vous avez fait. »
Le peu de sympathie que Malta éprouvait à son égard se dissipa à cet accès d'apitoiement. Condition intolérable, vraiment. Il voulait dire que sa chambre était petite et que personne, sauf elle, ne s'occupait de lui.
Il était furieux qu'on eût attribué à Malta une cabine particulière. Le bouffon n'était pas de vastes proportions, mais ces pirates-là accordaient une grande importance au confort. Elle avait eu l'intention de le persuader, à force de cajolerie, de venir à la table du capitaine. Elle renonça à cette idée, mais tenta un dernier effort.
« Vous feriez mieux de montrer un peu de force d'âme au lieu de bouder comme un enfant et d'imaginer une vengeance qui s'exercera après votre mort. Pour le moment, le nom que vous portez est la seule chose qui vous rende précieux à leurs yeux. Levez-vous, prouvez-leur qu'il y a un homme derrière le titre. Alors il se peut qu'ils vous respectent. »
« Le respect de pirate, d'assassin et de voleur, que voilà un noble but digne de moi !»
Il roula sur lui-même pour lui faire face. Son visage était pâle et émacié. Il la toisa d'un regard dégoûté.
« Et il vous respecte pour vous être si vite retourné contre moi ? Il vous respecte pour vous être si promptement prostitué à eux dans l'espoir de sauver votre vie ?»
L'ancienne Malta aurait giflé l'insolent. Mais la nouvelle pouvait dédaigner les insultes, ravaler les affronts et s'adapter à toutes les situations. Cette Malta-là survivrait. Elle secoua ses jupes superposées rouges, jaunes et bleues. Ses bas rouges et blancs étaient très chauds, sa chemise blanche sous un gilet douillettement ajusté jaune et rouge. Elle l'avait cousue elle-même la nuit dernière. Elle avait dérobé des bouts de tissu et s'était confectionné un couvre-chef.
« Je vais être en retard, »
lui dit-elle froidement.
« Je vous apporterai quelque chose à manger plus tard. »«
Je n'ai que peu d'appétit pour vos restes, »
répondit-il avec aigreur. Elle était à la porte quand il ajouta
« Votre chapeau ne va pas. Il ne cache pas la cicatrice. »
« Il n'est pas fait pour ça. »
Elle ne lui jeta pas un regard.
« Apporte-moi des herbes à fumer !»
hurla-t-il soudain.
« Je sais qu'il y en a à bord. Il doit y en avoir. Vous mentez quand vous dites qu'il n'y en a pas. C'est la seule chose qui puisse me remettre le ventre, et vous faites exprès de me les refuser. » « Vous êtes une putain, une buse, une femelle imbécile !»
Dehors, une fois qu'elle eut refermé la porte derrière elle, elle s'appuya à la cloison et respira à fond. Puis, elle souleva ses jupes et courut. Le capitaine rouge n'aimait pas qu'on arrive en retard à sa table. À la porte, elle s'arrêta pour reprendre haleine. Par une habitude qui lui venait d'une autre vie, elle se pinça les joues pour les rosir et se tapota les cheveux. Elle lissa rapidement ses jupes et entra. Ils étaient déjà tous attablés. Le capitaine rouge la considéra d'un regard grave. Elle plongea dans une profonde révérence.
« Pardonnez-moi, messieurs, j'ai été retenu. »
« En effet !»
Ce fut l'unique réponse du capitaine. Elle se hâta de prendre place à sa gauche. Le second, un homme tatoué du front à la gorge, était à sa droite. Le tatouage du capitaine rouge était plus discret, exécuté avec une encre jaune qui se voyait à peine si l'on n'était pas au courant. Quoique les esclaves musiciens et comédiens fussent des possessions fort prisées, leurs propriétaires évitaient d'ordinaire de les marquer de façon trop visible, ce qui pouvait déprécier leur talent. L'équipage du bouffon était largement composé d'une troupe théâtrale qui avait été libérée par le capitaine Kenneth. À un signe du capitaine, le mousse s'anima et se mit à servir. La nappe d'une blancheur immaculée, la lourde porcelaine et le cristal étincelant démentaient la simplicité de la chair. La cuisine variait peu d'un navire à l'autre. Le pain était dur, la viande salée et les légumes consistaient en des racines. Au moins sur le bouffon, Malta ne se contentait-elle pas des restes. Elle prenait ses repas à table avec des couverts. Le vin, butin récent pris sur un navire chalcédien, surpassait de loin les mets qui l'accompagnaient. Il y avait aussi une conversation qui, si elle n'était pas toujours très élevée, était du moins polie et civilisée grâce à la composition de l'équipage. L'esclavage ni la piraterie n'avaient entamé l'intelligence et la vantardise de ses membres. Privés de théâtre, ils transformaient la table en scène pour leur spectacle et Malta était leur public. Ils rivalisaient d'efforts pour la faire rire ou la surprendre. L'esprit vif était requis à table, ainsi que les bonnes manières. Si elle n'avait rien su, elle n'aurait jamais deviné que ces hommes qui plaisantaient et jouaient avec les mots étaient aussi des pirates sanguinaires capables de massacrer toutes les âmes sur un navire. Elle avait l'impression de marcher sur un fil quand elle dînait en leur compagnie. Ils l'avaient accueillie avec courtoisie parmi eux, mais elle se gardait bien d'oublier qu'elle était aussi leur prisonnière.
Elle n'aurait jamais cru que les manières gracieuses qu'elle avait acquises comme fille de marchand lui seraient d'un aussi grand secours. Pourtant, alors qu'ils conversaient en faisant un saut d'esprit sur le vrai sens du fils de la veuve dans les comédies de Redoyev ou débattaient de Saldone, de sa maîtrise de la langue contre son déplorable manque de rythme dramatique, elle mourait d'envie d'orienter la conversation sur des informations plus substantielles. L'occasion ne se présenta qu'à la fin du repas. Alors que les autres s'excusaient et se levaient de table, le capitaine reporta son attention sur Malta.
« Alors, notre gouverneur Magnadon Kosgo n'a pas encore jugé bon de se joindre à nous ?»
Elle se tapota les lèvres et prit son temps pour répondre. « Capitaine, je crains qu'il ne soit encore indisposé. Son éducation ne l'a guère habitué aux rigueurs du voyage en mer, malheureusement. »
« Son éducation ne l'a habitué à aucune rigueur. Dites plutôt qu'il dédaigne notre compagnie. »«
Sa santé est délicate et sa situation le déprime, » répondit-elle, décidée à ne pas critiquer le gouverneur. Si elle se retournait contre lui, elle ne serait plus considérée comme sa loyale et peut-être précieuse servante. Elle s'éclaircit légèrement la gorge. « Il a encore réclamé des herbes à fumer pour soulager son mal de mer. »«
Bah !» « Fumer ne soulage pas du mal de mer, ça ne fait que vous hébéter, de sorte que vous en oubliez votre malaise. Je vous ai dit que ce n'était pas autorisé à bord. Ce sont les dettes dues aux herbes à fumer et autres amusements qui nous ont amenés sur le billot des tatoueurs. »«
Je le lui ai dit, capitaine, hélas, il ne me croit pas. »«
Il en a très envie, c'est pour cela qu'il ne peut pas imaginer qu'on s'en passe. »
railla le capitaine. Il se racla la gorge. Son attitude se modifia.
Il ferait bien de se joindre à nous demain. Nous voudrions discuter avec lui poliment des termes de sa rançon. Insistez pour qu'il soit là demain.
Je le ferai, répondit Malta avec empressement. Mais je crains de ne pouvoir le convaincre que cela améliorera ses conditions de captivité. Peut-être me permettrez-vous de servir d'intermédiaire dans cette discussion. Je suis habitué à son caractère.
« Dites plutôt que vous êtes habitué à son mauvais caractère, à ses bouderies, son arrogance, sa méchanceté puérile. Quant à faire part de mes intentions, eh bien, tous sont d'accord pour penser que le gouverneur de Jamelia sera un beau cadeau pour Kenith, le roi des îles des pirates. Nombre d'entre nous trouveraient amusant que notre gamin gouverneur finisse ses jours avec une couronne tatouée près du nez et des fers aux pieds. Peut-être pourrait-on lui apprendre à servir à la table de Kenith. Mais notre chef est enclin au pragmatisme. Je soupçonne que le roi Kenith rendra contre rançon le grand seigneur Gâté à qui le voudra. Il appartiendra à Kosgo de déterminer de qui il pourrait s'agir. Il me plairait de le présenter à Kenith avec une liste de personnes appelées à faire une offre.
Kenith. L'homme qui avait pris son père et son navire. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-il possible qu'elle-même finisse par se trouver devant cet homme et qu'elle négocie d'une façon ou d'une autre la libération de son père? Le gouverneur Kosgo acquit soudain une valeur nouvelle à ses yeux. Elle inspira et réussit à sourire. « Je vais le convaincre de dresser cette liste, » assura Malta. Elle suivit le second des yeux. Il était le dernier à quitter la pièce. « Si vous voulez bien m'excuser, je vais voir si je ne peux pas commencer dès ce soir. » La porte se referma sur l'officier. Elle maudit le battement accéléré de son cœur car elle savait que le sang lui montait aux joues et la trahissait. Elle sourit en avançant tout doucement vers la porte.
« Êtes-vous si pressé de me quitter ?»
demanda le capitaine rouge avec une tristesse feinte. Il se leva et contourna la table pour s'approcher d'elle.
« Je m'empresse de vous obéir. » répondit Malta en laissant filtrer dans ses yeux un éclair de coquetterie. Elle devait user de prudence avec cet homme. Il avait une haute opinion de lui-même et c'était à l'avantage de Malta. Il se plaisait à supposer qu'elle le désirait, il appréciait la cour qu'il lui faisait et les occasions théâtrales qu'elle lui fournissait. Il s'en targuait devant son équipage, et la cicatrice ne le troublait pas. Quand un homme a été marqué contre sa volonté, songeait-elle, peut-être est-il moins gêné par les marques sur le visage des autres.
« Vous ne pourriez pas rester et m'obéir ici ?»
demanda-t-il avec un sourire plein de chaleur. Il était très bel homme. Ses manières étaient raffinées. Une partie d'elle, froide et dure, calculait que, si elle devenait sa maîtresse, elle pourrait l'utiliser contre Kenith.
Mais non. Ce n'était pas le souvenir des larges épaules de Reyn, ni de leurs mains jointes dans la danse qui la retenait. Pas du tout. Elle avait écarté toute pensée de son fiancé du désert des pluies. C'était un avenir qu'elle ne verrait jamais. Leur mariage était hors de question désormais. Mais il lui était encore possible, si elle se montrait assez brutale, de sauver son père. Malgré tout ce qui était advenu à sa fille, il continuerait de l'aimer du grand amour d'un père. Elle avait été trop distraite. Le capitaine rouge lui avait saisi les mains et la regardait avec amusement.
« Je dois vraiment y aller, »
murmura-t-elle en feignant le regret.
« Je n'ai pas encore apporté à dîner au gouverneur. Si je tarde trop, il sera de méchante humeur et obtenir cette liste de noms peut se révéler... »«
Quel jeune don !»
déclara le capitaine brusquement en la dévisageant. « Je parie qu'on n'a pas encore essayé cette tactique avec lui. Peut-être est-ce précisément ce qu'il faudrait pour le rendre raisonnable ?»
Elle réussit à dégager doucement une main. « Si sa santé n'était pas si délicate, je serais certainement tentée par l'expérience. Mais il est le gouverneur, le seigneur de Jamelia. Un homme de cette importance doit être conservé en bonne santé. Vous n'êtes pas de cet avis ?»
En réponse, il lui enlaça la taille de sa main libre, l'attira à lui et se pencha pour l'embrasser. Elle ferma les yeux et retint son souffle. Elle essaya de remuer les lèvres comme si elle accueillait le baiser, mais elle ne faisait que se demander comment tout ceci finirait. Soudain, il fut le marin chalcédien avec un genou entre ses jambes. Elle se dégagea brusquement, haletante.
« Non, je vous en prie, non !»
Il s'arrêta aussitôt. Il y avait peut-être une trace de pitié dans son amusement.
« Je m'en doutais. Vous êtes une très bonne petite comédienne. Si nous étions tous deux à Jamelia, moi un homme libre et vous sans cicatrice, nous aurions fait quelque chose de vous. L'équipage qui vous a retenu prisonnière a dû abuser de vous. C'était vraiment dur, n'est-ce pas ?»
Elle ne comprit pas qu'un homme pût poser cette question. « J'ai été menacée, mais seulement menacée. »
parvint-elle à dire. Elle détourna les yeux. Il ne la crut pas.
« Je ne vous forcerai pas. N'ayez crainte. Je n'ai pas besoin de forcer une femme. Mais il ne me déplairait pas de vous désapprendre la peur. Et je ne me montrerai pas impatient. »
Il tendit la main et lui caressa la joue.
« Votre attitude et vos manières montrent que vous avez été bien élevé, mais nous sommes tous deux ce que la vie nous a fait. Pas de retour possible vers un passé innocent. Le conseil peut paraître rude, mais il est né de ma propre expérience. Vous n'êtes plus la fille vierge de votre père qui se garde pour une union bien avantageuse. C'est fini. Alors, acceptez de bon cœur votre nouvelle vie. » Profitez du plaisir et de la liberté qu'elle vous offre à la place de vos anciens rêves de mariage convenable et d'une position dans la bonne société. Malta, la fille de marchand de Terrilleville, a disparu. Devenez Malta des îles des pirates. Il se peut que vous trouviez cette vie plus douce que l'ancienne.
Il fit glisser ses doigts avec légèreté jusqu'au creux de sa gorge. Elle se força à rester calme en tirant sa dernière arme.
« Le coq m'a dit que vous aviez une femme et trois enfants à Lance au Taureau. On peut jaser. Votre femme en serait blessée. »«
On jase toujours, » assura-t-il.
Ses doigts jouaient avec le col de Malta.
« Ma femme n'y fait pas attention. Elle dit que c'est le prix qu'elle paie pour avoir un mari beau et intelligent. » « Faites comme moi, n'y pensez pas. Ma famille n'a rien à voir avec ce qui se passe sur ce navire. »«
Vraiment ? »
fit-elle à mi-voix.
« Et si votre fille était prise par des envahisseurs chalcédiens, approuveriez-vous qu'on lui donne ce conseil ? Devenir de bon cœur ce qu'il ferait d'elle ? Lui diriez-vous que son père refuserait de la reprendre parce qu'elle ne serait plus sa fille vierge ?
vous serait-il indifférent de savoir qu'elle a été violée, combien de fois et par qui ?
Elle leva le menton.
« Sacré nom »
jura-t-il avec admiration. Le dépit étincelait dans ses yeux, mais il la lâcha. Elle recula avec soulagement.
« Je vais demander les noms au gouverneur, »
dit-elle en manière de compensation.
« Je lui ferai comprendre que son salut dépend de ce qu'il peut tirer de ses nobles. Il fait grand cas de sa propre vie. Je suis sûr qu'il sera généreux avec leur argent. »
« Il a intérêt. »
Le capitaine rouge avait recouvré un peu de son aplomb. « Cela rachètera l'avarice avec laquelle vous ménagez vos faveurs. » Malta lui adressa un sourire sincère et se permit de quitter la chambre d'un pas fier et superbe.
Vous venez d'écouter « Les aventuriers de la mer ». Tome 8 Ombres et flammes de Robin Hobb, traduit de l'anglais par Véronique David Maresco, lu par Vincent Deboire.